Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Corinne en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Je ne fais pas, par exemple, des images extrêmement noires, extrêmement morbides quand je photographie des personnes âgées, mais j'en fais pas non plus un tableau idyllique à la... Voilà, je ne cherche pas non plus à cacher la réalité. Moi, je suis vraiment dans la vie réelle.
La photographe Florence Brochoire travaille avec La Croix depuis 2013. Pour le journal, elle a suivi pendant un an le quotidien d'une maison de retraite en région parisienne. À travers ses photos, elle montre la vie des résidents avec pudeur et sensibilité. Dans ce podcast, un photographe revient sur les coulisses d'un reportage réalisé pour le journal La Croix. Il nous explique son travail de terrain et les choix qu'il a faits pour raconter cette histoire en images. Vous écoutez L'Envers du Récit.
Je m'appelle Florence Brochoire, je suis photographe documentaire, donc je travaille sur des sujets société et je fais aussi beaucoup de portraits pour la presse, mais aussi pour des institutions, enfin pour plein de gens différents, mais c'est vrai que la presse, c'est mon cœur de métier. La Croix fait partie des rédactions que je suis venue voir avec mes travaux personnels très tôt, au début. Donc la première personne que j'ai rencontrée, c'est Armel Canitro, qui était chef photo à La Croix. Je ne savais tellement pas comment ça marchait, ce métier, que la première fois que je suis arrivée avec un CV. Donc, quand on est photographe, le CV, j'ai très vite compris que ça ne servait à rien du tout, parce que c'était les images qui primaient. Et comme elle était très gentille, elle m'a dit « Non, je n'ai pas besoin de ton CV, juste de voir tes images ». Et la première commande, c'est Fabien Vernois, qui travaille au service photo également, qui me l'a passée en 2013 sur le monastère de Beaufort. Et depuis, j'ai collaboré régulièrement avec La Croix. Cette série, elle a commencé en février 2017, donc je pense que Isabelle Delaganerie, qui est la chef actuelle du service photo de La Croix, m'a appelée, je pense, en janvier, un mois avant. L'idée était de rester un an dans le même EHPAD et de faire des sujets tous les mois dans La Croix. Une page par mois qui raconterait les saisons, qui raconterait la vie quotidienne, qui raconterait un peu la vie d'un établissement au long cours. Quand on est photographe, on a tendance à passer beaucoup d'un sujet à l'autre. On est appelé parfois la veille pour le lendemain, parfois le jour même. Parfois, ce sont des sujets très différents. Ça fait la richesse du métier, mais parfois, ça peut créer aussi un peu une frustration parce qu'on se dit qu'on pourrait rester plus longtemps et qu'on pourrait développer l'histoire des gens, créer d'autres relations. Donc, faire un travail comme ça au long cours, c'est un énorme cadeau. Donc, elle m'appelle, elle me demande si je peux le faire, si ça m'intéresse. Évidemment, moi, je trouve ça génial. Je dis tout de suite oui. La difficulté après, c'était de se caler avec le rédacteur. Donc, le rédacteur, le journaliste qui a fait ce travail-là s'appelle Pierre Bienveau. Lui travaille sur ces sujets-là très régulièrement à La Croix. Il travaille au sein de la rédaction. Faire coller le texte et la photo, c'est pas toujours simple. C'est souvent un travail d'équilibriste parce qu'il y a parfois des choses très visuelles qui marchent pas du tout en texte et des choses super à raconter qui visuellement ne donnent rien. Ça veut dire que déjà, même quand on est ensemble sur un sujet avec le ou la journaliste, c'est pas toujours évident de bien faire correspondre le texte et la photo. Là, en plus, ça se passait sur un an. C'était pas tout près. Ça se passe à la résidence de l'abbaye dans le Val-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés. Donc, il y avait quand même de la route. Et avec Pierre, du coup, on a été très peu ensemble. Il y passait quand moi, je n'y étais pas, et vice-versa. Ça a été un peu compliqué à mettre en place. Surtout qu'on a instauré un travail qui résonnait avec les saisons et avec les événements qu'il pouvait y avoir dans chaque saison, mais aussi avec l'actualité. Alors, comment on a travaillé au niveau des saisons? Parce que moi, mon grand questionnement, c'était comment faire pour ne pas être redondante dans les images. Parce que la vie en EHPAD, c'est quand même rythmé par un quotidien qui est très souvent le même. Et moi, je ne pouvais pas faire 12 épisodes avec des scènes de vie quotidienne qu'on aurait retrouvées d'un épisode à l'autre. Il fallait que visuellement, j'ai des choses différentes, que le récit soit différent. Donc, tous les mois, il publiait un calendrier dans cette EHPAD. Il publiait un calendrier déjà avec les activités, les événements dans le mois à venir. Donc, moi, déjà, j'étais beaucoup en lien avec la personne de l'animation, avec les personnes de l'organisation de l'EHPAD, pour savoir ce qu'allait se passer. Parce que je pouvais rebondir comme ça sur la fête de Noël, sur le fait qu'ils sont partis en vacances. Voilà, je pouvais choisir un peu comme ça des moments, des activités ou des événements qui collaient avec ce qu'allait raconter Pierre. Je me mettais en contact avec Pierre pour savoir si lui avait une idée du prochain sujet dont il allait parler. Et c'est comme ça qu'on a construit les 12 épisodes. Sur ce type de sujet, il faut être très vigilant au niveau des autorisations. C'est très compliqué au niveau de droit à l'image. Bon, alors les soignants, il suffit de poser la question et de faire signer des autorisations. Là, c'est assez clair, c'est assez simple. Pour les résidents en EHPAD, la difficulté, c'est que parfois, ils sont sous tutelle. C'est-à-dire qu'ils perdent même la possibilité de dire oui ou non pour leur droit à l'image. Ça paraît incroyable parce qu'on a envie de dire... Même les personnes âgées ont le droit de dire elles-mêmes si elles veulent ou pas être sur les images. Mais certaines, à partir du moment où elles sont sous tutelle, il faut demander l'accord du tuteur ou de la tutrice. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des tuteurs qui répondent très rapidement. Il y en a qui disent toujours non, il y en a qui disent toujours oui, et puis il y a ceux qui ne répondent pas. Et après, être vigilant pour pas que ces personnes apparaissent à l'image. Donc déjà, la première partie repérage, elle est là. Elle est de repérer un peu des personnages clés qui sont partie prenante du projet et dont je sais que je vais pouvoir les suivre de mois en mois. Alors, c'est un EHPAD qui est un peu particulier parce que le directeur Pascal Chanvert a une façon d'envisager ces établissements qui est un peu novatrice. Par exemple, le fait que les résidents puissent emmener leur animal de compagnie, ça ne se voit pas dans tous les EHPAD. Les gens viennent avec leurs meubles, avec leurs affaires personnelles. Évidemment, c'est une chambre, il faut qu'ils réduisent le nombre d'affaires qu'ils emmènent. Mais en fait, il essaye de faire vraiment comme si les résidents et résidentes se sentaient chez eux. Chez elle. Donc, il met tout en place pour qu'il y ait de l'intergénérationnel aussi. Il y a une crèche dans le même établissement. Il y a un salon de coiffure ouvert au public, c'est-à-dire que les gens de l'extérieur viennent se faire coiffer. On n'est pas dans un lieu fermé à l'extérieur. Je pense que ça fait partie aussi du fait que Pascal Chanvert ait accepté que l'équipe de La Croix vienne pendant un an. Parce que c'est pas évident de se dire qu'il y a des journalistes qui vont venir pendant un an, comme ça, un peu, même parfois à l'improviste. D'emblée, déjà, on me présente André Tess, qui va devenir un des personnages clés de cette série. Alors, c'est pas un hasard si on me la présente. Hein. Le personnel de l'EHPAD sait très bien que c'est une dame qui est ouverte sur le monde, qui est en forme, qui est drôle, qui a envie de tout, qui est super, quoi. Et donc, elle est ravie de me rencontrer, elle a envie de discuter. Très vite, elle plaisante parce qu'elle me montre une robe qu'elle voudra mettre pour l'anniversaire de ses 100 ans, quand toute sa famille viendra fêter son anniversaire. Elle monte cette robe, elle dit « j'avais commencé un régime, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Du coup, cette robe, pour l'instant, je ne peux pas rentrer dedans. Alors, je suis bien embêtée parce que déjà, j'ai plus de tenue pour mon anniversaire. » Et je sens que ça, très vite que ça, elle va devenir un des personnages clés de la série. Sont très présents aussi dans la série Bernard et Simone. On travaille toujours très en lien avec le personnel de l'EHPAD, hein, avec l'animatrice, mais aussi avec les aides-soignantes, avec les infirmières. Donc, eux savent très bien qu'il ne faut pas aller voir pour ne pas les déranger parce qu'ils n'ont pas envie de ça et qui serait plutôt partant pour participer au projet. Et donc, Simone et Bernard, c'est un couple, ils sont dans la même chambre. Ils sont arrivés récemment. Simone est atteinte de la maladie d'Alzheimer et Bernard a demandé à venir dans un établissement parce qu'il n'arrivait plus à bien s'occuper de sa femme. Trop fatigué, dans une maison à étage. Donc, il demande à rentrer dans cet établissement. Mais du coup, lui est encore très actif. Donc, il fait partie des délégués dans cette EHPAD. Il y a un comité délégué résident qui intervient sur les décisions, qui donne son avis. Donc, il fait partie de ce comité de délégués de résidents. Il connaît tout le monde à la cantine, il salue tout le monde. Ils font partie de ceux qui mangent avec les enfants de la crèche parce qu'ils aiment les interactions avec l'extérieur. Et pareil, je sens très vite qu'ils vont devenir des personnages importants de la série. Donc, ils apparaissent dans l'épisode sur les couples en EHPAD. Ils apparaissent aussi quand ils mangent avec les enfants de la crèche. Ils apparaissent à Pâques quand les enfants viennent chercher des œufs dans les chambres des résidents. Ils apparaissent régulièrement. Mon épisode préféré, c'est l'épisode où on parle des vacances. Je suis partie avec eux au Croisic. Donc il y a, je crois, une quinzaine de résidents qui sont partis avec une partie du personnel soignant quelques jours au Croisic. Et c'était vraiment super parce que j'ai pu vraiment travailler en immersion. J'ai partagé leur séjour du début jusqu'à la fin. Et du coup, ça crée forcément d'autres sortes de relations. Et avec les résidentes, dans mon souvenir, il n'y avait que des femmes. Et aussi avec les soignantes. Visuellement, en plus, moi, ça me permettait de sortir un peu de l'EHPAD, d'avoir des paysages de front de mer, d'avoir des moments le soir avant de se coucher, d'avoir des moments au petit déjeuner, enfin vraiment d'avoir d'autres moments à l'image qui n'apparaissaient pas forcément depuis le début de la série. Et puis, dans ce voyage, il y avait Maria, qui était responsable de l'animation à l'EHPAD, et Catherine aussi, aide-soignante, pareil, qui était très partie prenante du projet et qui m'ont aidée, qui m'ont facilité la tâche auprès de certains résidents et vraiment qui avaient un regard très bienveillant sur les résidentes et des femmes très courageuses parce que c'est très compliqué d'emmener comme ça des personnes à mobilité réduite à la plage. Chaque transport est compliqué, il faut monter dans le camion, il faut transporter les personnes qui ne marchent pas dans le véhicule, ensuite il faut sortir. Il faut s'imaginer un peu la complexité de chaque déplacement dans ce genre de voyage. Donc c'est des personnes très volontaires et quand on voit le visage des résidentes face à la mer, on se dit que vraiment ça vaut le coup parce que ça les change de leur univers quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire pour leur bien-être. Donc ça fait partie des images qui vraiment m'ont marqué. Le selfie aussi avec Catherine, la super aide-soignante avec laquelle je m'entendais très bien. Catherine propose à trois résidentes de sortir un peu sur le front de mer, sur la plage. Donc elles partent toutes les quatre et je les suis. Alors en fauteuil roulant dans le sable, c'est pas évident. On a du mal à avancer. Et Catherine aimait beaucoup faire des photos. Elle a un portable, elle a une perche à selfie, elle a tout ce qu'il faut pour faire des photos. Au bout d'un moment, on arrive donc le long de la mer. Là, on voit le paysage derrière. Et elle fait une photo des résidentes et d'elle sur ce front de mer. Et avec la lumière qui tombait, avec le paysage, avec ce côté un peu décalé, moderne du selfie, j'aimais beaucoup cette image. Je suis très contente qu'elle ait été publiée parce que je la trouvais à la fois souriante et esthétique. L'épisode le plus compliqué à illustrer, les images qui ont été les plus difficiles à faire, difficiles pas humainement, mais d'un point de vue visuel, je pense que c'est l'épisode sur la mort. Parce que donc Pierre décide de faire un épisode sur la mort, qui est un sujet évidemment important. Mais visuellement, c'est pas facile de parler de ce sujet parce qu'il ne s'agit pas de faire des images trop dures. Et en même temps, il s'agit quand même d'évoquer le sujet sans faire du théorique. C'est-à-dire que moi, je photographie des gens, donc il faut que j'arrive à montrer des personnes et sans que ce soit violent. Donc ce qu'on a trouvé comme alternative, c'est que j'ai photographié dans l'oratoire de la résidence. Il y a eu un moment pour évoquer les temps de prière qui pouvaient être mis en place quand quelqu'un décédait à la résidence de l'abbaye. Donc j'ai photographié cette réunion, mais il n'y a rien de moins visuel qu'une réunion. C'est vraiment très compliqué, il y a des gens autour d'une table, c'est statique, donc on a vite fait le tour de la question. On retombe souvent sur les mêmes images. Humainement, c'est pas là où il y a les émotions les plus fortes. Enfin, j'ai essayé, en accent sur les mains de la personne qui parle, sur quelques éléments visuels, il y avait une croix, il y avait de parler de ça. Si on enlève les légendes de cet épisode-là, je sais pas, par exemple, si on comprend bien le sujet. Et ça veut dire que si quand vous enlevez les légendes, on comprend pas bien le sujet, c'est que visuellement, ça fonctionne pas tout à fait. Alors, parmi les photos d'André Tess que j'ai suivies donc sur cette année, il y a l'épisode de son anniversaire, de ses 100 ans. Sa famille est venue, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Elle avait un rapport avec sa famille très jovial, très convivial. Donc, ils sont tous venus et on sentait qu'il ne se forçait pas du tout. Il lui avait préparé des diaporamas, il lui avait préparé des surprises. Donc, c'est un anniversaire qui se passe au sein de l'EHPAD. Moi, j'ai passé toute l'après-midi avec eux. Et elle est incroyable parce qu'elle arrive avec sa bonne humeur toujours. Et puis, en cadeau, elle reçoit une tablette numérique. On se dit, à 100 ans, recevoir une tablette, c'est assez original comme cadeau. Et elle est sur la photo, on la voit ouvrir son cadeau et dire à son arrière-petite-fille exactement ce que je voulais, une tablette numérique. La complicité qu'il y a entre cette femme et sa famille, elle était extraordinaire. Et ça, on le sent bien, je pense, dans les trois photos qui ont été choisies, qu'il y a un rapport très doux entre les générations et très bienveillant. Alors, une fois que les images sont faites et que je rentre de prise de vue, il y a toute une partie qu'on appelle editing, c'est-à-dire c'est le choix des images. C'est le photographe seul devant son ordinateur qui fait déjà une première sélection. Alors, il y a plus ou moins de matière. Je parlais de l'épisode sur la mort. En l'occurrence, je n'avais pas beaucoup d'images. Donc là, le choix, il est vite fait. Il n'y a pas trop d'hésitation. Et puis, il y a eu des épisodes sur lesquels j'avais beaucoup plus d'images. Et dans ce cas-là, le choix est beaucoup plus compliqué. Parfois, on est très attaché à des images qui, finalement, vu de l'extérieur, présentent peu d'intérêt. À l'inverse, il y en a qu'on aime moins, mais qu'on sait fondamentales pour le récit. Parfois, on voudrait les enlever, parfois on les laisse parce qu'on dit que ça va peut-être manquer. Il faut à la fois se mettre dans la tête du service photo qui va recevoir le reportage et qui va devoir construire une maquette, un récit. Et à la fois, ne pas faire trop de compromis avec les images qu'on aime le plus. Et réussir à bien les mettre en valeur en espérant qu'elles soient choisies. Parce qu'après, il y a toute une partie qui nous échappe. Une fois que le choix est envoyé, nous, on ne maîtrise pas ce qui va être publié et ce qui ne va pas l'être. Donc, en termes de choix, c'est ça, il faut qu'on ait plusieurs échelles de plans. C'est important d'avoir des vues d'ensemble, mais aussi des gros plans pour varier le récit. Surtout quand, au final, dans la publication, il y aura plusieurs images. Il ne faut pas que ce soit des images trop similaires. Donc, on fait un premier choix. Moi, souvent, j'y reviens. Après, on a toute la partie post-production. Systématiquement, mes images, je les retravaille. Des fois, on a des soucis d'éclairage, de néon très jaune qu'il faut un peu rectifier. On a quelqu'un qui apparaît dans le coin du champ qu'il faut faire disparaître, donc il faut modifier le cadrage. Et après, j'envoie cet editing à la rédaction. Je ne peux pas dire que quand je fais un reportage et quand je fais les choix, je n'ai pas la rédaction pour laquelle je fais ce travail-là dans la tête. Je sais très bien pour qui je travaille au moment où je fais mes prises de vue. Je sais très bien que le sujet ne sera pas traité exactement de la même façon. Après, moi, ma manière de travailler, elle est constante. Donc, je ne m'interdis pas à certaines images, sachant que de toute façon, je ne suis pas une photographe qui va faire des images violente ou dégradante pour les personnes. Enfin, j'essaye de m'imposer des limites, mais ces limites, elles sont constantes sur l'ensemble des rédactions pour lesquelles je travaille. Parfois, ça peut m'arriver de faire des images plus irrévérencieuses ou plus décalées, où il peut y avoir de l'humour, et ça, je ne m'interdis pas de les faire. J'ai à la fois bien en tête pour qui je fais ce travail-là, et à la fois, je travaille comme moi, je l'entends avec ma manière de procéder habituelle et qui n'est pas liée à une rédaction en particulier. Enfin, on m'appelle pour certains types de travaux, donc je pense que c'est parce qu'on sait que je ne fais pas, par exemple, des images extrêmement noires, extrêmement morbides quand je photographie des personnes âgées, mais j'en fais pas non plus un tableau idyllique à la... Voilà, je ne cherche pas non plus à cacher la réalité. Moi, je suis vraiment dans la vie réelle. Après, je vous dis, les choix, par contre, peuvent être très différents. C'est-à-dire que ce que garde un service photo au final, ça change beaucoup d'une rédaction à l'autre. Quand ça s'est terminé, le plus difficile, c'est de quitter les gens avec lesquels on a créé des liens. J'y suis jamais retournée, à la résidence de l'abbaye dans le Val-de-Marne, parce que j'ai peur de savoir que Madame Tess est décédée, donc je suis dans le déni, je préfère pas savoir. J'ai appris par contre que dans le couple de Bernard et Simone, c'était Bernard qui était parti en premier, alors qu'il était très en forme et qu'il venait dans cet établissement pour préserver la santé de sa femme. Finalement, il est décédé peu de temps après la fin de la série. Et quelque part, j'ai envie de garder cette image-là d'eux. Je n'ai pas redemandé de nouvelles, mais c'est vrai qu'il y a des personnes... je parlais de Catherine, l'aide-soignante. Elle a continué à me souhaiter une bonne année tous les ans pendant plusieurs années après. Il y a vraiment des liens, ou Maria, la responsable de l'animation, il y a vraiment des liens qui se sont créés. Et ça, c'est toujours un petit déchirement de se dire qu'on ne reviendra plus et que, en ce qui concerne les personnes très âgées, peut-être on ne les reverra plus. Ce reportage au long cours, il a eu une vie après. Il a été présenté au festival Visa pour l'image à Perpignan, qui est un festival dédié au photojournalisme. Il a été nominé pour le prix de la presse quotidienne. Et j'étais très fière de montrer ce travail. Et Isabelle de la Gannerie m'a appelée pour plusieurs sujets difficiles humainement ou dans des structures avec des publics fragiles. Et j'aime beaucoup faire ce genre de travail. C'est vraiment une collaboration qui me tient à cœur parce que souvent, on me confie des portraits et des sujets très humains et c'est vraiment ce que j'aime faire.
Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du Récit. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Les photos de Florence Brochoir prises à la maison de retraite de l'Abbaye sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du quotidien La Croix.